Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightnartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié une première fois en 1781, puis profondément remanié en 1787. La critique de la raison pure est l'ouvrage majeur par lequel Emmanuel Kant redéfinit le problème de la connaissance. Ce traité de philosophie théorique ne cherche pas à accumuler des informations sur le monde, mais à examiner les conditions qui rendent possible toute expérience connaissable. Kant répond ainsi au conflit entre le rationalisme, qui attribuait à la raison un pouvoir étendu sur les réalités suprasensibles, et l'empirisme, dont le scepticisme menaçait la nécessité des sciences. Son projet est critique au sens d'un tribunal qui détermine les droits, les pouvoirs et les limites de la raison. L'ouvrage établit que l'esprit ne reçoit pas passivement le réel, il organise les données sensibles selon des formes et des concepts a priori. Il soutient en même temps que cette activité ne donne accès qu'aux phénomènes, non aux choses telles qu'elles seraient indépendamment de notre manière de les connaître. La critique propose donc une fondation de la connaissance scientifique et une limitation rigoureuse de la métaphysique spéculative. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la révolution copernicienne place le sujet au centre de la connaissance, Kant renverse la question classique de la connaissance. Au lieu de supposer que l'esprit doit se régler sur des objets déjà pleinement déterminés, il demande si les objets de l'expérience ne doivent pas se régler sur les structures de notre faculté de connaître. Ce déplacement est nommé révolution copernicienne par analogie avec le changement de point de vue introduit en astronomie. Il ne signifie pas que chacun invente arbitrairement son monde, ni que le réel extérieur disparaît. Il signifie que ce qui peut être connu comme objet dépend de conditions universelles apportées par le sujet connaissant. L'expérience résulte donc d'une coopération, les sensations fournissent une matière, tandis que la sensibilité et l'entendement lui donnent une forme intelligible. Cette thèse permet à Kant de dépasser deux positions adverses. Contre le rationalisme dogmatique, elle refuse que la seule pensée découvre la nature des choses indépendamment de toute expérience. Contre l'empirisme, elle affirme que l'expérience ne suffit pas à expliquer la nécessité et l'universalité des lois scientifiques. La connaissance objective devient possible parce que les mêmes conditions a priori structurent toute expérience humaine possible. Le sujet kantien est ainsi pas un individu psychologique particulier, mais le foyer formel de règles communes qui rendent possible un monde d'objets partageables et soumis à des lois. Deuxièmement, espace et temps sont les formes a priori de toute intuition sensible. Dans l'esthétique transcendantale, Kant analyse la sensibilité, faculté par laquelle les objets nous sont donnés. Il soutient que l'espace et le temps ne sont pas des propriétés découvertes dans les choses, ni des concepts abstraits tirés d'observations répétées. Ils sont les formes a priori de notre intuition, toute apparition extérieure est nécessairement située dans l'espace. Et toute perception ou succession est nécessairement ordonnée dans le temps. Cette position explique pourquoi certaines connaissances mathématiques peuvent être à la fois universelles et indépendantes de l'expérience particulière. La géométrie concerne la forme spatiale sous laquelle tout objet extérieur peut nous apparaître, tandis que l'arithmétique se déploie dans l'intuition temporelle de la succession. Kant ne prétend donc pas décrire l'espace et le temps tels qu'ils existeraient hors de toute relation à un sujet connaissant. Il décrit leur rôle comme condition de possibilité de l'expérience humaine. La conséquence est décisive, nous connaissons les objets comme phénomènes, c'est-à-dire tels qu'ils apparaissent sous ces formes, et non tels qu'ils pourraient être en eux-mêmes. Cette distinction ne dévalorise pas la science de la nature. Elle en précise le domaine de validité, qui est celui des objets possibles de l'expérience, tout en empêchant de transformer ces résultats en connaissance absolue de la réalité ultime. Troisièmement, les catégories de l'entendement rendent l'expérience pensable et objective. Recevoir des sensations ne suffit pas encore à connaître. Pour Kant, une multiplicité sensible doit être unifiée afin qu'un objet puisse être identifié, décrit et relié à d'autres objets. Cette fonction revient à l'entendement qui pense au moyen de concepts purs appelés catégories. Parmi elles figurent notamment la causalité, la substance, l'unité, la pluralité et la nécessité. Elles ne sont pas empruntées à l'expérience, car elles constituent précisément les règles par lesquelles une expérience organisée devient possible. Dire qu'un événement a une cause ne consiste donc pas seulement à remarquer une répétition habituelle entre deux faits. C'est inscrire un changement dans un ordre nécessaire permettant de le reconnaître comme événement dans une nature soumise à des lois. Kant répond ici au défi de Hume qui avait mis en doute le fondement rationnel de la causalité. Toutefois, les catégories n'ont de validité qu'appliquées aux données de l'intuition sensible. Un concept sans intuition ne fournit aucune connaissance d'objet, de même qu'une intuition sans concept demeure aveugle et non pensée. Cette limitation est essentielle, la causalité peut légitimement servir à comprendre les phénomènes naturels, mais elle ne permet pas d'établir spéculativement des vérités sur Dieu. l'âme ou le monde conçu comme totalité. L'objectivité naît ainsi de la synthèse réglée entre le donné sensible et l'activité conceptuelle de l'entendement. Quatrièmement, les jugements synthétiques, a priori, fondent la possibilité des sciences. La question directrice de la critique porte sur la possibilité des jugements synthétiques a priori. Un jugement est a priori lorsqu'il vaut indépendamment d'une expérience particulière et présente une nécessité universelle. Il est synthétique lorsqu'il apporte au concept du sujet un contenu qui n'y est pas déjà analytiquement inclus. Kant estime que les mathématiques et les principes fondamentaux de la science de la nature comportent de tels jugements. Leur validité ne peut donc être expliquée ni par la simple analyse des mots, ni par une généralisation prudente à partir des faits observés. Son enquête transcendantale cherche les conditions qui autorisent cette nécessité. Les mathématiques reposent sur les formes pures de l'intuition, espace et temps. La physique fondamentale repose sur l'application des catégories aux phénomènes, notamment sur l'exigence que les changements soient pensés selon des règles causales. Cette architecture ne vise pas à produire des résultats scientifiques concurrents de ceux des savants. Elle cherche à comprendre pourquoi une connaissance de la nature dotée de lois nécessaires est possible. Elle fixe aussi une frontière, la métaphysique traditionnelle prétendait produire des jugements synthétiques a priori sur des objets suprasensibles. Mais elle ne peut justifier cette prétention faute d'intuitions sensibles correspondantes. Kant sauve ainsi la portée de la science tout en contestant l'extension illimitée de son modèle à toute question philosophique. En dernier lieu, la dialectique transcendantale dénonce les illusions de la métaphysique spéculative. La raison cherche naturellement l'inconditionné face à chaque fait conditionné. Elle demande une explication plus générale et tend vers une totalité ultime. Cette aspiration est légitime comme orientation de la pensée. Mais elle devient illusoire lorsqu'elle transforme les idées de l'âme, du monde et de Dieu en objets susceptibles d'être connus comme des phénomènes. Dans la dialectique transcendantale, Kant examine les raisonnements par lesquels la métaphysique traditionnelle affirme connaître une âme simple et immortelle, démontrer l'existence de Dieu ou établir la structure complète de l'univers. Il montre que ces preuves dépassent les conditions de l'expérience et utilisent abusivement les catégories. Les antinomies illustrent particulièrement cette difficulté. La raison peut construire des arguments apparemment contraignants pour soutenir des thèses contraires sur le monde. Par exemple, qu'il a ou non un commencement. Ces contradictions ne révèlent pas une faillite totale de la raison, mais l'erreur consistant à traiter le monde comme une chose donnée dans sa totalité. La critique a donc une fonction libératrice et méthodique. Elle empêche le dogmatisme de présenter des hypothèses métaphysiques comme des savoirs sans réduire la raison au silence sceptique. Les idées transcendantales conservent un usage régulateur, elles poussent la recherche à unifier ses connaissances, mais ne délivrent pas une connaissance constitutive des réalités suprasensibles. Cette distinction demeure le geste le plus original de l'ouvrage. En conclusion, la critique de la raison pure s'adresse d'abord au lecteur prêt à travailler un texte exigeant étudiant en philosophie, chercheur. Lecteur des Lumières et personnes qui veulent comprendre les présupposés de la science moderne et de la métaphysique. Sa difficulté vient moins d'une obscurité gratuite que de l'ambition de son projet distinguer avec précision ce qui est donné dans l'expérience, ce qui est apporté par l'esprit et ce qui excède toute connaissance possible. Une lecture lente, accompagnée d'un glossaire ou d'une introduction, est souvent préférable à une lecture continue. Le bénéfice intellectuel est considérable. Le livre apprend à ne pas confondre nécessité logique, observation empirique et spéculation sur l'absolu. Il fournit aussi des outils pour évaluer les prétentions de discours qui invoquent la raison ou la science, sans interroger leurs conditions de validité, par rapport au traité de métaphysique qui propose une doctrine achevée du réel. Kant se distingue en faisant de l'examen des pouvoirs de connaître le préalable de toute doctrine. Par rapport aux critiques sceptiques, il ne conclut pas à l'impuissance de la raison, il fonde son usage légitime dans les sciences, tout en refusant les excès. Cette double démarche, constructive et limitative, explique la place singulière de l'ouvrage. Il demeure une référence pour penser l'objectivité, le rôle du sujet et les frontières entre savoir, croyance et hypothèse. Si vous souhaitez soutenir Emmanuel Kant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.